Le journal Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et ce matin, parole aux tout derniers habitants de la tour Obélisque. Le plus haut immeuble de Seine-Saint-Denis est frappé de péril imminent et l'évacuation totale se termine ce soir. Problème, le système de relogement est saturé dans ce département. Après le Grand Est, après Lyon, PACA, Besançon, Tours viennent d'y passer. De plus en plus d'hôpitaux déclenchent leur plan blanc en pleine cinquième vague de Covid. Pourtant, les hospitalisations ne sont pas encore au plus haut. Explication à suivre. Au sommaire aussi, une plongée au cœur de la salle de crise de la police judiciaire face au risque terroriste. La dynamique Valérie Pécresse qui pourrait bien perturber les plans macronistes pour la présidentielle. Et puis un repas de saison, la raclette. Et enfin une solution pour ne pas gâcher du fromage.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, c'est aujourd'hui l'acteur et co-scénariste Jean-Paul Rouve pour le film Les Tuches volume 4, réalisé par Olivier Barou, en salle aujourd'hui.
France Inter.
C'est la plus haute tour de Seine-Saint-Denis, Alexis, et d'ici ce soir, plus personne ne l'occupera.
100 mètres de haut, 160 appartements et 500 habitants, la tour obélisque d'Épinay-sur-Seine est devenue trop fragile. Ses balcons menacent de s'effondrer. Il y a péril imminent pour la préfecture qui a donc ordonné son évacuation totale début novembre. Et c'est aujourd'hui la date limite. Les derniers habitants doivent quitter leur logement d'ici à la fin de journée. Beaucoup d'amertume au moment de partir définitivement, d'autant que pour certains, la galère ne fait que commencer. Faustine Calmel.
Au 22e étage, plusieurs portes sont fermées par des scellés judiciaires, traces du passage de la police il y a un mois pour évacuer les logements les plus à risque.
Ça m'a tellement traumatisée et je ne veux pas qu'on vienne toquer chez moi et à 6h du matin on me tire avec ma fille, ça c'est hors de question.
On croise Angélique en plein déménagement.
J'ai un crédit de 25 ans et ça fait que 3 ans que je suis là. Je pleure tous les jours, je pense tous les jours à tout ce que j'ai bâti, quoi. Ce qui nous arrive, je le souhaite à personne.
Angélique, qui vit ici avec sa fille de 10 ans, partira dans un hôtel à Courbevoie et fera les allers-retours pour l'amener à l'école. 11 étages plus bas, Christine refuse cette solution.
Je suis à jour dans mes loyers, mon bailleur est à jour dans ses charges de copropriété. Nous sommes en plein trêve hivernale, nous sommes en fin d'année. Je n'ai aucune envie d'aller à l'hôtel qui nous trouve des logements.
Mais en Seine-Saint-Denis, le système de relogement est saturé.
16e étage.
Ici, Jean-Pierre, 80 ans, il a passé la moitié de sa vie dans cet appartement qu'il s'apprête à quitter pour presque rien, dit-il.
Il y a un appartement de 120 mètres carrés qui est parti, là, 70 000 euros, alors que le mètre carré à Épinay vaut 2400 à 2900 le mètre carré. Vous voyez, on est spolié, croyez terminer ma vie ici, et puis je suis foutu dehors comme un chien.
Jean-Pierre a pris un avocat, mais la procédure en annulation de l'arrêté préfectoral ne suspend pas cette évacuation.
Faustine Calmel à Épinay-sur-Seine et la destruction de cette tour obélisque est prévue à l'horizon 2028. À Sanary-sur-Mer, dans le Var, le bilan s'alourdit à 2 morts dans l'effondrement d'un immeuble. Les pompiers ont retrouvé ce matin le corps d'une octogénaire 24 heures après cet effondrement. Son fils est toujours recherché.
Il est 7h33, près de 60 000 nouveaux cas de Covid recensés hier en France.
Et 2350 patients en réanimation. La cinquième vague commence clairement à se faire sentir à l'hôpital, même si on est encore très loin des chiffres atteints lors des trois premières vagues. Pourtant, de plus en plus d'hôpitaux déclenchent déjà leur plan blanc. Comme ces dernières heures, le CHU de Tours, où l'on agit par anticipation, Adrien Bossard.
Ce que la direction du CHRU redoute, c'est un afflux de patients, non seulement à cause des variants Delta et Omicron qui comportent encore beaucoup d'inconnus, mais aussi en raison des problèmes que rencontre actuellement l'hôpital d'Orléans. Là-bas, une centaine de lits sont fermés par manque de personnel. Des transferts vers Tours ne sont pas à exclure si le voisin du Loiret n'arrive plus à gérer la situation. Pour l'instant, ce ne sont que des interrogations, des projections, car les chiffres sont relativement stables au CHRU. Sur la centaine de lits que le service de réanimation comporte, 24 sont occupés par des patients Covid. Avec ce plan blanc, l'hôpital Tourangeau peut, si besoin, déprogrammer des opérations non urgentes, donc hors cancer et greffe, pour récupérer des lits et du personnel. C'est d'autant plus important quand on sait que le taux d'absentéisme est de 10% au CHRU de Tours en ce moment et que la direction a du mal à recruter des intérimaires. Elle tient à rassurer ses effectifs. Ça ne veut pas dire qu'on annule les congés de fin d'année.
Les précisions de France Bleu Touraine et ce matin des nouvelles rassurantes sur le variant Omicron. Pour l'Organisation Mondiale de la Santé, il ne semble pas à ce stade plus dangereux que Delta. Quant aux vaccins actuels, ils devraient garder au moins partiellement une efficacité contre Omicron selon l'OMS. Lui gère en ce moment les conséquences économiques de la cinquième vague de Covid sur l'événementiel et les discothèques. Le ministre des PME, Alain Griset, est fixé sur son sort aujourd'hui dans l'affaire de sa déclaration incomplète de patrimoine. Le tribunal correctionnel de Paris rend sa décision à 13h30. À l'audience, le parquet a requis au moins 10 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité. Après le Cher, l'allié Emmanuel Macron poursuit aujourd'hui son déplacement consacré aux villes moyennes, visite aux forts accents de campagne, comme l'en accusent ses opposants. Parmi eux, Valérie Pécresse, tout juste choisie par LR pour la présidentielle et qui est portée cette semaine par plusieurs sondages favorables. Trop tôt pour y voir une tendance de fond, mais la bataille pour le deuxième tour semble très ouverte. Ce qui pourrait bien compliquer les affaires du chef de l'État, mais aussi de son ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui présente aujourd'hui l'organigramme de son nouveau parti, Horizon. La dynamique Pécresse ne l'arrange pas du tout, Maxence Lambrecq.
Vous verrez, après le congrès LR, la poutre va encore travailler, les ralliements se multiplier. À l'Élysée, comme chez Édouard Philippe, très peu pariaient sur une victoire de Valérie Pécresse, encore moins sur une dynamique. C'est la plus proche de nos idées, regrette un lieutenant d'Édouard Philippe. Et chez nous, beaucoup ne sont pas convaincus par Macron. Faudra choisir, c'est un dilemme. Du brouillard à l'horizon, car au Havre, au moment du lancement du parti, la candidate LR avait plein d'amis accueillis un par un.
Louis Vogel, le maire de Melun, Frédéric Valtoux, maire de Fontainebleau, Arnaud Péricard, Grégoire de Lasteyrie,
la maire de Pontoise.
Et nous sommes venus très nombreux d'Île-de-France aujourd'hui.
Très nombreux et très partagés. Voilà ce que disait Frédéric Valtoux, le maire de Fontainebleau, il y a 6 mois.
J'ai choisi Valérie parce que c'est une femme engagée, c'est une femme volontaire.
Et qu'avait pensé à l'époque Valérie Pécresse du discours fondateur d'Édouard Philippe.
Un réquisitoire extrêmement sévère contre Emmanuel Macron. J'ai entendu dire Édouard Philippe qu'il voulait remettre de l'ordre dans la rue et dans les finances publiques. Moi, ça tombe bien, c'est mon projet pour la France.
Il portait le même projet il y a 5 ans derrière Alain Juppé. Édouard aura un peu de mal à s'y attaquer, glisse un de ses amis. Moi, ajoute un autre fidèle, je suis sûr qu'au départ, Macron était content de voir Pécresse gagner parce que ça nous complique la vie, mais ça pourrait bien aussi compliquer la sienne. Les derniers sondages suscitent une fébrilité assez inhabituelle en Macronie.
Le Saoudien arrêté hier à Roissy dans l'affaire Khashoggi est-il bien l'homme recherché? L'Arabie Saoudite sème le doute ce matin. L'ambassade saoudienne à Paris affirme qu'il y a erreur sur la personne et demande sa libération immédiate. Paris explique de son côté que les vérifications sur son identité sont en cours. C'est un dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. En plein procès des attentats du 13 novembre, nous vous emmenons ce matin au cœur du dispositif activé en cas d'attaque terroriste. Pour la première fois, la direction de la police judiciaire ouvre les portes de sa salle de crise. C'est là notamment qu'arrivent, lors d'un attentat, les appels passés au 197, le numéro servant à recueillir les témoignages pour localiser les assaillants. Salle de crise déjà mobilisée 4 fois depuis 2015. Hier, c'était donc pour un exercice qu'a pu suivre pour Inter Emmanuel Leclerc.
D'accord, 85, oui.
Thomas est susceptible d'être l'un de ces agents réquisitionnés en cas d'attentat. Il est enquêteur à l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels.
La difficulté, encore une fois, là, c'est de poser les bonnes questions, c'est de ne pas perturber le témoin. Comme là, je viens d'avoir un appel, la dame était complètement paniquée. Mais en même temps, il faut savoir prendre les informations.
Là, pour les opérateurs, toute la difficulté pour eux, c'est de ne pas perdre la lucidité dans la manière de poser les questions.
Olivier Richardot, numéro 2 de la sous-direction antiterroriste.
Surtout pas surcharger leur stress, qui va déjà être lourd, parce que les appels vont être incessants et pendant 8 heures, de manière ininterrompue, ils vont enchaîner les appels.
Si on prend par exemple l'attentat du Bataclan, on va dire qu'on était sur un dispositif qui a duré pendant 10 jours et c'est 17 000 appels qui ont été passés sur ces 10 jours.
Séraphia Scherer est chef d'état-major à la direction centrale de la police judiciaire.
Pour, au final, environ 5 appels qui ont été décisifs pour l'enquête.
On peut se dire que c'est pas rentable, mais c'est extrêmement efficace en réalité parce qu'on a beaucoup de déperditions dans l'absolu, mais on a également, parmi les témoignages qu'on a reçus, des éléments qui vont nous permettre de progresser, qui permettent d'éviter la réitération, de neutraliser les auteurs de l'attentat.
Il y a des victimes ?
800 enquêteurs des offices centraux de police judiciaire comme Thomas s'entraînent à tour de rôle chaque semaine dans la salle de crise Malahude à Nanterre pour être prêts au cas où le jour J à répondre à celles et ceux qui appellent le 197.
Le reportage d'Emmanuel Leclerc. Décidé en juin dernier, un nouveau code de droit canonique, le droit de l'Église, entre en vigueur aujourd'hui. Le Vatican a mis à jour notamment la partie sanctions après les nombreux scandales de pédophilie. Désormais, les sanctions sont sont bien explicites dans les textes du Vatican, ce n'était pas le cas avant, et elles sont renforcées allant jusqu'à l'exclusion de l'Église. Il relie la Russie à l'Allemagne, le gazoduc Nord Stream 2. Les États-Unis pourraient bien en faire un levier contre Moscou dans le dossier ukrainien. C'est ce que sous-entend en tout cas la Maison-Blanche à l'issue de l'entretien à distance hier entre Biden et Poutine. Si le président russe veut que le Nord Stream 2 transporte du gaz, il ne prendra peut-être pas le risque d'envahir l'Ukraine. Voilà ce que déclare le conseiller pour la sécurité nationale de Joe Biden. La Russie qui rejoint le marché du tourisme spatial, c'est même plutôt un retour pour Moscou qui avait déjà envoyé de riches entrepreneurs dans l'espace durant les années 2000. Après une pause d'une décennie donc, un vaisseau Soyouz doit décoller dans une heure de Baïkonour direction l'ISS avec à son bord un milliardaire japonais. Il va séjourner une douzaine de jours dans la station spatiale internationale.
Et on en vient à un vrai problème, 7h40, que beaucoup rencontrent au moment de partager une raclette.
Avec les températures hivernales vient aussi l'envie de fromage fondu. 30 000 tonnes de raclette consommées chaque année en France. Et à chaque fois, Nicolas, la même question. Comment éviter de se retrouver avec pas assez ou trop de fromage ou de charcuterie? Plus d'inquiétude, des informaticiens ont trouvé la solution avec raclette.world, un site pour calculer précisément la quantité d'ingrédients nécessaires. Yann Gallic.
En quelques secondes, ce site vous donne les justes proportions pour une raclette idéale. Il suffit de renseigner le nombre de convives autour de la table, de choisir ensuite les ingrédients. Pour 6 adultes et 4 enfants, par exemple, il vous faudra 8 tranches de jambon blanc, 24 tranches de rosette, 2240 g de pommes de terre, 1848 g de fromage et 40 cornichons.
Quelles sont les quantités idéales d'ingrédients pour faire une raclette? C'est un problème universel.
Ingénieur en informatique, Clément Gibaud a donc répondu à cette question existentielle en inventant ce super calculateur avec deux amis qui voulaient mettre l'intelligence artificielle au service de la raclette.
Nous, on en avait marre de faire des raclettes entre amis et puis de jamais avoir la bonne quantité d'ingrédients, de devoir refaire une raclette le lendemain alors que on en a déjà dévoré la veille et qu'on en a un peu marre. Et donc, pour réduire le gaspillage et avoir pile poil la bonne quantité, on a créé un petit programme. Ça nous évite de finir ballonnés. On espère que la Silicon Valley nous contactera. C'est quand même un produit qui est visionnaire. On fait ça pour la gloire de la raclette. Tu es parfaite
avec ou sans rosette. Un mois seulement après sa création, le site comptabilise déjà près de 50 000 visiteurs par jour. Quand je te vois, mon cœur bat la chamade,
même si je risque un infarctus du... Super invention. Je sais pas vous, Nicolas, mais moi, c'est avec les pommes de terre que je me fais souvent avoir.
Vous avez plus de problèmes. Merci, Alexis Morel. L'édito politique, à suivre.